Et donc, Padmasambhava, c'est le. En gros, c'est ce principe, c'est le principe de transformation qui vient et qui va essayer de convertir ces forces, qui va intégrer ces forces, qui sont toutes autour de nous, qui sont ancrées très profondément dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif, dans notre histoire personnelle et collective. Et qui prennent des formes, en général, c'est des forces qui prennent des formes négatives dans la vie ordinaire. Ça ne veut pas dire que les forces en soi sont négatives, c'est juste la forme qu'elles prennent dans la vie ordinaire. C'est le plus souvent des formes négatives. Et on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les détruire, on ne peut pas s'en détacher. Donc ce qu'il faut en faire, c'est les soumettre, c'est les transformer, c'est les intégrer. Parce que si, oui, il faut parce que la vie spirituelle doit rester une vie vivante. Si on se coupe de toutes les énergies qui sont essentiellement des énergies négatives, il ne va pas nous rester grand chose pour pratiquer. Et puis on va avoir une vie un peu une vie spirituelle un peu anémique et complètement desséchée. Alors oui, l'idée c'est d'intégrer ces énergies, d'avoir une énergie vivante. Une vie spirituelle vivante, riche, vibrante, colorée, mais pas négative. Et donc, comment on le fait? Comment on va faire pour les intégrer? Ah ben, on suit un petit peu le modèle de Padmasambhava, qui est la première chose des choses à faire, c'est de se rendre compte qu'elles existent. Et c'est ce que fait Padmasambhava. La première chose qu'il fait, c'est il les reconnaît. Il sait qu'ils acceptent que ces forces soient là. Si on n'entre pas en communication avec elles, on n'arrivera pas à les transformer. Et même si ça s'explique pas, même s'il y a des choses qui expliquent pas, ben elles sont là. Donc c'est de les accepter, c'est de dire ben voilà, c'est de s'ouvrir un petit peu à ces forces. Et ensuite, ben, l'autre outil de Padmasambhava, je pense, c'est le fait que c'est un yogi. Et c'est un yogi très, très avancé et très, très développé. Donc, c'est un grand, grand méditant. Et il a beaucoup, beaucoup médité dans sa carrière. Et il méditait énormément. Il a passé beaucoup de temps. Et en fait, oui, c'est la méditation, c'est très important. C'est un des outils de transformation les plus puissants que nous ayons. La metta, la positivité, c'est un outil incroyable pour rencontrer les choses difficiles, les démons et les forces comme ça. Si on a une force, si on a un metta développé, la compassion présente, pour aller à l'encontre de ces forces négatives. Donc la méditation, oui, je pense que c'est un des outils que nous avons les plus importants. Et c'est vrai que ça travaille. La méditation travaille en souterrain. Souvent, on a une vision immédiate de la méditation, et puis il y a les effets souterrains qui ressortent au bout de quelques temps ou de façon très subtile. On se rend compte, oh, tiens. Je fais des choses, je fais différemment et j'arrive à les relier au fait que ben, je fais de la méditation depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et il y a des choses qui ont changé, que je n'ai pas abordé directement et qu'il y a eu des changements qui sont faits en souterrain et qui sont très caractéristiques de la méditation. Et puis le troisième aspect de Padmasambhava, c'est le magicien. C'est l'aspect tantrique. C'est l'utilisation des rituels, des incantations. Il arrivait et puis il rencontre les démons et puis il leur dit une formule magique et hop, les démons sont calmés et convertis. Donc c'est un peu ça. Ça c'est l'aspect peut-être le plus mystérieux, complètement irrationnel, on dira. Et c'est l'utilisation des rituels. C'est pour ça qu'on fait des pujas aussi, qui sont des pratiques assez étranges en fait, sont vraiment pas rationnels. J'arrive pas à expliquer l'effet des pujas sur moi. Par exemple, moi je serais plus un partisan de Shantarakshita que de Padmasambhava. N'empêche que je me suis beaucoup ouvert à d'autres aspects. Et les pujas en soi sont pas rationnels. Les textes qu'on utilise sont sont très imagés, poétiques. Ils parlent pas à la raison, mais ils continuent à nous parler et ils ont un effet transformateur très important. On utilise des symboles, on utilise des images pour nous parler à d'autres, pour parler à d'autres aspects de notre conscience ou d'inconscience. Et on a d'autres rituels où on peut se faire nos propres rituels, et dans l'ordre bouddhiste occidental et dans le mouvement, on a des cérémonies pour l'ordination, on a des cérémonies pour quand on devient un mitra, on a des cérémonies pour sceller une amitié spirituelle, et puis on fait des rituels pour les départs, pour les arrivées de nouvelles personnes. Il y a d'autres rituels plus généraux, il y a les rituels du mariage. Donc c'est des choses qui, les rituels ont une force qui va au-delà de la raison, qui sont plus forts que ce qu'on peut imaginer ce qu'ils sont. Par exemple, quand je déménage, quand je commence à habiter dans un nouvel endroit, je passe un certain temps à créer à faire des rituels de dédicace. Je dédie la place à ma pratique, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai déménagé le mois dernier en Chine. Les premières choses que j'ai fait, c'était de faire des dédicaces, de dédier mon hôtel d'une pièce, mon appartement à la pratique bouddhiste. Et même si je suis un Shantarakshitien, je fais de plus en plus de rituels. Des fois, j'utilise des mantras sans raison apparente. Il y a des mantras qui viennent, et moi, je continue à les chanter, ou j'invoque des bodhisattvas particuliers, à des moments particuliers. Je fais des offrandes aux dieux, même si je ne sais pas s'ils sont là, s'ils existent vraiment. Je suis très scientifique, donc j'ai du mal à imaginer qu'il y en a, mais pourquoi pas. En fait, j'en suis venu à me dire que la pratique est tellement difficile. Atteindre l'éveil, c'est tellement difficile que je peux utiliser toute l'aide qu'on peut me donner. Donc, s'ils existent, autant ça coûte pas grand-chose de faire une petite offrande ou de les invoquer, d'invoquer les dieux. Je dis au cas où, ça peut toujours servir. Ça fait pas de mal en tout cas. Pour en revenir à Padmasambhava, c'est lui qui vient, c'est lui cette force de transformation et de détermination. Et il est féroce, ouais. Il est déterminé dans son regard. Il est très souvent il est chargé d'énergie. Les gens, quand ils en parlent, il est en général très très énergétique et assez courroucé, en fait, parce que les forces qu'il attaque sont en fait très 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 grandes. Si on s'attaque aux forces de la société, etc., et de la société en général, et ce qu'il a fait en gros, c'est transformer tout le peuple tibétain en un peuple bouddhiste, ce qui est quand même une tâche assez importante, et il a réussi avec succès, en fait. Donc oui, il faut beaucoup d'énergie pour transformer ça, mais il y a aussi l'aspect compassion, en fait, et souvent ça, on le voit pas trop peut-être dans Padmasambhava, mais sa motivation première, c'est de transformer la société pour que tous les hommes puissent atteindre l'éveil, pour que tous les hommes puissent être libérés de la souffrance, des possessions par les démons, etc. Toute la souffrance qui vient de ça. Donc il y a un énorme cœur derrière, une énorme compassion qui vient avec ça. Et je pense que Padmasambhava, on reste pas, il laisse pas indifférent. C'est pas un des personnages que je trouve le plus attirant. Au contraire, en fait, moi j'ai l'impression que quand je le regarde ou quand je le rencontre dans les festivals comme ça, ou quand on en parle, il vient titiller mes démons. Il y a les démons qui sont agités. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il réveille une espèce de peur très profonde, que mes démons commencent à sentir quelque chose d'autre qui est là. Et ça les aide. Donc du coup, je préfère garder ma distance, ma distance par rapport à Padmasambhava. Sauf que cette fois-ci, je suis en plein dedans à donner une conférence sur Padmasambhava. Donc ouais, il a une grande compassion, il a une grande positivité, une grande confiance qui sont nécessaires pour affronter ces démons. Et l'autre façon qu'il a de les affronter, c'est je vais juste dire deux mots par rapport à ça. C'est oui, il rencontre et il pénètre ces démons. Il va les explorer très très profondément. Il va vraiment les connaître. Et en fait, il va chercher le remède contre. Il va chercher les remèdes au sein même du mal. Il va trouver le remède. Il va trouver la clé de la libération au sein même des énergies négatives. Donc c'est comme ouais, il est toujours toujours prêt à affronter les choses parce qu'il sait qu'il y a que la clé se trouve à l'intérieur du démon ou de cette force qu'il y a toujours une façon de la il y a toujours une façon de la convertir. Il a une confiance absolue que ces énergies peuvent être converties. Et c'est un peu le message de Padmasambhava et celui du Bouddha aussi, c'est que oui, l'éveil est possible et que on a tous les éléments pour se libérer des forces négatives. Donc que les forces d'intégration et de transformation sont toujours et seront toujours plus fortes que les forces de désintégration et les forces négatives. Donc c'est un peu aussi le message positif et d'espoir, c'est que oui, on sera toujours plus fort. Et je pense qu'un des aspects de Padmasambhava, c'est que oui, il a de plus en plus d'énergie, plus il rencontre des démons forts, plus il sera fort, hein, ou il sera plus fort que les démons. Donc plus il a de résistance, plus il sera grand et costaud. Et donc, pour nous, si quand on rencontre des forces comme ça, ou pas quand on rencontre, on les rencontre tout le temps, on peut, peut-être quand elles nous semblent un peu trop fortes, en fait, ou trop grandes pour gérer, ce qu'on peut faire, c'est faire appel à Padmasambhava. Il est quelque part, il a disparu du Tibet au 8e siècle, mais on ne sait pas où il est. Il est très mystérieux, il est encore là. Et cette force d'intégration est toujours quelque part. Donc on fait appel à lui pour nous aider. Et laisser agir sa magie. Il y a quelque chose de très mystérieux et de magique. Et voilà, on fait appel à ça. On peut peut-être pas l'expliquer, mais peut-être ça aura son effet. Et c'est une des raisons pour laquelle on le célèbre aussi. Oui, pourquoi il est important pour le mouvement, c'est justement au moins une fois dans l'année, on fait appel ou on évoque Padmasambhava, faire appel à ses peut-être aussi à ses pouvoirs pour nous aider à nous implanter dans la société occidentale et à Paris, en France en particulier.